Chapitre 17. La grecque des îles. Hérène et Rosette. En répit de leur théorie singulière à l'endroit des femmes, mes amis du Cénacle avaient presque tous une maîtresse, bonne fille qu'ils aimaient beaucoup, et au pied de qui, ô sacrilège, ils écrivaient, eux, les raffinés et les sceptiques, des vers amoureux en se cachant. Je ne faisais, moi, de vers amoureux pour personne. Tout entier à l'orchestration de mes musiques, et fier d'avoir oublié Rennes si tôt, chose cependant naturelle, je me croyais revenu de l'amour, ce pays où jamais je n'étais allé. Quant à Rosette, si parfois dans mes rêveries, une bacchante rouge sous ses raisins, ou quelque centaurès empruntait sa brune figure, qu'avait de commun, je vous le demande, avec le véritable amour auquel je ne croyais plus, ce caprice de mon imagination perdu au milieu de tant d'autres voluptueux caprices. Me voyant ainsi, sans passion au cœur et sans maîtresse, mes amis me prêtèrent bientôt je ne sais quels vices obscurs auxquels ils faisaient parfois allusion, et moi je les laissais dire, sans bien comprendre, car tous ces soupçons et ce mystère flattaient singulièrement ma vanité. J'étais devenu l'homme important de notre petit monde. Aussi ne m'étonnais-je pas, un matin, une voiture s'étant arrêtée à ma porte, de voir entrer la maîtresse de Bargiban en ses atours, et derrière elle, un jeune homme pâle et long comme une laitue montée en graines. C'était quelque cousin de province, pensais-je, que Bargiban avait chargé Lucile de promener. « Monsieur Jean des Figues, » dit Lucile. Le visiteur s'inclina. « Monsieur Nicolas Nivoula, » reprit l'interlocutrice, en ayant soin de prononcer Nicolas Nivoula, histoire de rire. Nicolas Nivoulas, rectifia le cousin d'une voix timide. Puis, m'adressant un pâle sourire de la couleur de sa barbe qu'il avait jaune, cher maître, dit-il. Mais Lucile l'interrompit. Eh, parlez donc, monsieur le capitaliste. Jean des Figues, voici. Il s'agit de fonder une revue, le titre est trouvé, la revue barbare, organe de la nouvelle poésie. Rédacteur en chef, Nicolas Nivoulas, administrateur Bargiban. On vient vous proposer le fauteuil de secrétaire de la rédaction. Cela va-t-il? Moi, je suis caissier. Lucile, caissier, l'affaire devenait sérieuse et ce fut à mon tour de m'incliner. Nicolas Nivoulas n'était plus long, il était grand. Et subitement, ses cheveux carottes prirent à mes yeux la couleur vénérable de l'or. Un capitaliste, un fondateur de journaux, qui venait me demander ma collaboration, en voiture, j'aurais donné 15 jours de ma vie afin que quelqu'un pût me voir de Canteperdrie. La revue barbare naquit. Mais quel intérieur pour un intérieur de revue? Bargiban faisait ou était censé faire les abonnements sur un piano. Lucile, dès le premier jour, s'était installée à la caisse et un quadrille de poètes et de muses se trémoussait en permanence dans le cabinet de rédaction. Ce cabinet vaut qu'on le décrive. 1000 curiosités apportées par les rédacteurs riches, costumes, étoffes et colliers, émaux italiens, faïences persanes, poignards, narguilés et lanternes peintes s'y entassaient dans un désordre de haut goût, ne laissant pas voir du mur un morceau grand comme l'ongle. Le long de la corniche, Bargiban avait disposé son fameux musée des cailles d'huîtres et, sous la rosace du plafond, à l'endroit où pend l'œuf de roc des contes arabes, se balançait un mignon squelette d'enfant vêtu d'un pourpoint écarlate et bleu, ton propre pourpoint, ô cousin Mitre, recoupé pour la circonstance et qui laissait voir par ses crevés les côtes polies soigneusement et les vertèbres blanches comme neige. Si un bourgeois venait s'abonner, disions-nous quelquefois en riant déjà de sa surprise. Malheureusement, le bourgeois s'obstinait à ne pas venir. Nivoulas, néanmoins, nageait en pleine joie. Il tutoyait des journalistes. Si vous l'aviez vu promenant son importance dans les coulisses de Montparnasse, ou bien quand il criait « Mes dettes !» chez notre restaurateur, sauf à payer subrepticement son dîner dans l'escalier, en ajoutant un fort pourboire pour qu'on fît semblant de se plaindre. C'était ridicule, mais que voulez-vous, le malheureux avait, sur la vie littéraire de Paris, toutes les grandes traditions de la province. Qui diable, en attendant, se fût imaginé que, dans le corps de cet homme jaune, si mince qu'il ployait au vent, se cachait un formidable adorateur de la force brutale et du muscle? car c'est ainsi que Nivoulas se révéla. Catéchisé par Bargiban, j'imagine, et secrètement ennuyé de se voir si maigre, Nivoulas fit des armes à mort et exécuta des tours de force en hydrothérapie. Il se livra au masseur, victime résignée, suivit les luttes de la reine et perdit une partie de ses journées à lever des haltères chez Triac. Après un mois de cette culture, Nivoulas, aussi efflanqué que jamais, se trouva seulement avoir grandi de quelques pouces. Tout lui profitait en longueur. Estimant néanmoins son système musculeux convenablement préparé, Nivoulas nous déclara qu'il allait écrire une œuvre forte, brutale et carrée, une œuvre moderne, vécue et convaincue, une œuvre enfin d'homme bien portant, qui n'aurait rien de commun avec nos corruptions et nos mièvreries. Et, pour mieux prouver que ce n'était point là projet en l'air, il porta le soir même son premier chapitre à l'imprimerie et se mit à boire la bière. Cela lui barbouilla l'estomac quelquefois dans un gobelet d'un demi-sétier à la façon pantagruélique. Ce premier chapitre ne parut jamais. La revue publia des critiques de Bargiban, des vers de moi, quelque chose de tout le monde. Nivoulas seul n'y eut jamais rien. Comme par un fait exprès, toujours au moment de mettre sous presse, quelque accident imprévu venait de renvoyer d'une fois encore l'apparition du malheureux chapitre et les livraisons succédaient aux livraisons, portant invariablement sur leur couverture cette annonce irritante et mélancolique « Apparaître dans notre prochain numéro le premier chapitre du roman si impatiemment attendu « La vie en rouge » par M. Nicolas Nivoulas. Cette œuvre musculeuse et saine, etc., etc. » Ainsi dépouillé de sa revue, le pauvre garçon n'osait se plaindre. Et, comme seul de toute la bande, je lui témoignais quelque amitié, plus d'une fois il me fit le confident des amertumes de son âme. « Ils me refusent tout, monsieur Jean des Figues. J'ai essayé de leur donner des vers, mon Jupiter peignant les comètes, dans la grande manière archaïque et grecque, refusé comme le reste. La fin était bien cependant. » Et ce malheureux Nivoulas me récitait la fin. Des étoiles restaient entre les dents du peigne, sur son trône taillé dans un clair diamant, ayant la Caire à droite, à gauche ayant la moire, Zeus, tout au fond des cieux, souriait gravement, et son ongle écrasé les astres sur l'ivoire. Un jour, moins triste qu'à l'ordinaire, Nivoulas me confia que, résolu de frapper un grand coup, il voulait le soir même lire son fameux premier chapitre à tout le cénacle assemblé. « Promettez-moi d'y venir, mon cher Jean des Figues !» Puis, plus bas, souriant et sa pâle figure éclairée d'un vif rayon de joie, « Je vous montrerai ma maîtresse » fit-il en me serrant la main. « Une maîtresse à Nivoulas, à Nicolas Nivoulas ?» Je n'eus garde, vous pensez bien, de manquer au rendez-vous. Quand j'arrivai, nos fenêtres joyeusement éclairées jetaient un bruit d'éclats de rire et de musique dans la rue teinte en rouge par le reflet des rideaux. Nivoulas, en m'attendant, fumait un cigare sur la porte. Serais-je à temps pour la lecture ? Oh oui, me répondit-il, on n'a pas encore commencé, je ne sais pas quel train il mène là-haut. Nivoulas affectait un air indifférent, mais je n'eus pas de peine à voir combien, au fond, il était malheureux. « Est-ce qu'après lui avoir pris sa revue, me disais-je en montant l'escalier, ces enragés-là lui auraient encore pris sa maîtresse ? Je ne me trompais pas de beaucoup. » Au beau milieu du salon, sur des coussins entassés, une jeune personne était assise. « La grecque des îles, murmurait-on. Son air ne me parut pas nouveau. » Pourtant, je ne la reconnus pas d'abord à cause du costume. Figurez-vous qu'elle portait une robe d'or fendue par-devant à la mode orientale et, sous la robe, une chemise de soie, claire comme de l'eau claire, qui laissait entrevoir, ma foi, une fort jolie petite personne. Ces messieurs avaient trouvé madame plus amusante qu'une lecture, il avait grisé de champagne, et pour le quart d'heure, on en était déjà à lui indiquer des poses plastiques, caprices d'artiste, auxquels l'aimable enfant, qui avait l'air de s'amuser beaucoup, se prêtait avec une rare complaisance. Je compris alors la tristesse de Nivoulas. Tout à coup, la grecque des îles me regarde, pousse un cri et se précipite à bas de ses coussins, si vivement, ô pudeur, que sa babouche s'embarrassant dans un pli de sa fine chemisette. « Jean des Figues ! Jean des Figues » criait-elle en éclatant de rire. Et Jean des Figues, ahuri, aussi ahuri que le bon Nivoulas accourut au bruit, reconnaissait, non sans émotion, dans la petite grecque qu'il embrassait, vêtue seulement d'un bracelet d'or faux à la cheville, devinez qui ? Rosette, Rosette elle-même, que 6 mois avant, il avait laissée riant comme elle riait aujourd'hui sur le pont de Canteperdrix.